La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous retrouver en ce troisième jour de notre série africano-danoise, puisque nous parlons cette semaine de l'écrivaine Karen Blixen. J'avais une ferme en Afrique, écrit Karen Blixen aux premières lignes de son récit La ferme africaine, traduit en anglais par Out of Africa. Et cette phrase paraît résumer, à elle seule, l'état d'esprit de cette femme qui restera à jamais nostalgique de son aventure durant 16 années au Kenya, aventure dont elle sortira pourtant meurtrie. Mais Karen Blixen ne voulait pas d'une vie normale et elle a assumé les conséquences de ce choix-là. Alors depuis lundi, nous revenons ici dans la compagnie des auteurs sur le parcours de cette femme qui avait toutes les qualités et tous les défauts des personnes qui ne se sentent bien que dans une certaine forme de grandeur. Elle rejetait la monotonie, la petite bourgeoisie et l'excès de morale protestante et avait trouvé dans les paysages africains et les gens qui les peuplaient cette absence de vulgarité qui correspondait si bien à son caractère. Après la biographie lundi, la langue de Blixen hier et avant de rencontrer Geneviève Brisac demain, notre émission d'aujourd'hui entend d'abord explorer davantage ces années africaines. Ce sera avec Martine Bachrich en première partie. Elle a préfacé le Quarto Gallimard consacré au récit d'Afrique de Blixen. Et puis en seconde partie, nous serons avec l'écrivaine belge Nathalie Skowronek, auteure du roman Karen et moi, dans lequel elle met en miroir sa narratrice avec l'écrivaine danoise. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
C'est une femme qui a beaucoup, beaucoup souffert dans sa chair et dans son âme aussi, mais ça, elle en a fait des livres merveilleux. Mais elle a beaucoup souffert dans sa chair. Et cette petite femme, toute ridée, comme une pomme rainette au mois de décembre, que j'ai vue arriver sortant d'un hôtel de la rue du Faubourg Saint-Honoré et que j'ai ensuite emmenée chez Drouan, je ne me doutais pas que cette petite femme était en vérité rongée de l'intérieur par un mal implacable, mais qu'elle s'en accommodait fort bien d'une certaine manière et qu'elle était heureuse de présenter cette physionomie tout à fait rarissime et sans exemple. Mais qui était, je le répète, rayonnante de joie, d'intelligence et d'esprit.
Bonjour Martine Bachrich.
Bonjour.
Karen Blixen est une femme qui a souffert, disait Bernard Pivot, mais qui était dans le même temps rayonnante. Et c'est peut-être pour cela qu'elle a permis à de nombreux lecteurs et de nombreuses lectrices de trouver dans ses livres une sorte de paix, une sorte de soutien. Est-ce que c'est ce que vous ressentez également ?
Oui, je pense que d'une certaine manière, ces livres montrent qu'on peut surmonter ce qui peut apparaître à première vue comme le désastre d'une vie. Et c'est ainsi qu'est construite d'ailleurs La ferme africaine et une grande partie de son œuvre. La ferme africaine, c'est un conte, mais un conte qui commence à l'envers, c'est-à-dire qu'on ne devient pas fée au bout du compte, tout ne s'arrange pas magiquement, c'est le contraire, on est fée, tout à fait, on devient une fée ou une princesse dans les premières pages, dans le premier chapitre, et peu à peu, et assez rapidement d'ailleurs, c'est une sorte de chronique d'une catastrophe annoncée, d'une dévastation annoncée. Le miracle, il y en a un, mais il se situe tout à fait à la fin du livre, et en fait, il est incarné, si on peut dire, par le livre lui-même, qui sauve sa vie.
Le livre, c'est le miracle dans c'est la vie miracle. De Karen Blixen,
voilà.
Qui pensait qu'elle n'écrirait jamais.
Qui ne voulait même pas écrire. Elle disait que dans sa famille, quand on ne savait plus quoi faire ou rien faire dans la vie, on devenait un imprimé. Et c'était assez péjoratif dans sa bouche. Donc en fait, je pense que la seule chose, au fond, qui a dû beaucoup la surprendre, c'est que cet imprimé, enfin ce livre, et sauver sa vie. Et finalement, il a, ce livre a représenté tout ce qu'elle attendait dans le fameux conte de la cigogne qui est central dans son œuvre.
On parlera un peu plus tard du conte de la cigogne.
Oui.
Donc c'est une littérature de la résilience pour vous ?
C'est pas tout à fait ça. Enfin, je trouve que la résilience serait peut-être une assez réducteur, une simplification, parce qu'en fait, elle résiste très mal aux épreuves qui lui sont, qui lui arrivent, qui surviennent tout de suite. Hein. Il faut bien voir que c'est assez extraordinaire la condensation dans le temps des événements lorsqu'elle met le pied sur la terre africaine, à Mombasa, 14 janvier 1914. Sur le quai l'attendent son fiancé.
Elle n'est pas sûre, elle espère qu'il va être là. Finalement, il est là.
Il est là. Il l'attend, il l'épouse. Il est accompagné de son serviteur Somali Farah, dont on connaît le destin, l'immortel Farah.
Qui va rester toute la vie de Karen Blixen, non, enfin toute la vie africaine de Karen Blixen à ses côtés.
Oui. Et elle grimpe dans un train. Elle arrive à 2000 mètres au pied d'une gong, c'est la première ligne du texte. Et là, l'attendent 600 noirs qui l'acclament, qui la touchent, qui rugissent. Et elle devient propriétaire de ce qui sera un royaume, c'est-à-dire tous ces acres. C'est une plantation de caféiers qui est immédiatement vouée à l'échec. Des caféiers ne peuvent pas se développer sous ce climat-là. Et pour autant, elle continuera, elle persévérera c'est une forme de donquichotisme, hein, c'est-à-dire que c'est absurde, mais pour autant, elle poursuit son travail en pure perte.
Est-ce que ce départ pour l'Afrique, il était inévitable, Martine Bachrich ?
De
partir, est-ce que c'était inévitable que Karen Blixen parte en Afrique, selon vous ?
Ah, c'est-à-dire que, en fait, dans l'histoire, dans la biographie, comme vous avez dû le voir, elle était amoureuse du frère de Bror, amour déçu. Ensuite, Bror propose de l'épouser. À l'époque, il dirige une laiterie au Danemark. Là, ça ne l'intéresse pas du tout. Mais dès qu'il est question de s'associer avec la famille maternelle de Karen Blixen et d'acheter une propriété au Kenya, à ce moment-là, elle n'hésite plus du tout, elle se marie. Donc, déjà, l'Afrique est comme programmatique de quelque chose qui sera ce que ça devient immédiatement,
donc,
instantanément.
Elle se marie avec l'Afrique, vous diriez jusque-là ?
Oui, je pense. Je pense. D'ailleurs, dès les premiers jours de sa vie conjugale avec Bror, elle dit des phrases qui ne laissent aucun doute sur la révélation que cela peut être pour elle que le conjugal.
Vous avez parlé de royaume pour désigner cette propriété de 600 effectivement personnes sur laquelle 600 personnes travaillent. C'est un mot, j'imagine que en tant que psychanalyste, on ne l'a pas dit, mais vous êtes avant tout psychanalyste, vous n'avez pas choisi au hasard. C'est un royaume dont elle est la reine.
Oui, mais c'est ce qu'elle dit tout le temps. Hein. C'est-à-dire que les rois, elle considère qu'elle est un squatteur. Hein. Les rois, ce sont les héros mythiques, ce qu'elle sait, ce qu'elle ressent de l'Afrique. Ce sont les noirs, ce sont les animaux africains. Elle a l'impression qu'elle est là de passage sur cette terre-là et que c'est un royaume. C'est le royaume dont elle est dépositaire pendant le temps où elle est là.
Cette Afrique de Karen Blixen, quelle est-elle ? Parce que ce n'est pas une Afrique sexuée, comme pourrait l'être l'Afrique de Le Clésio. Mmh. C'est une toute autre Afrique. Comment est-ce que vous pourriez la définir, la décrire ?
Mais c'est en fait une Afrique. C'est ça qui est très intéressant dans la relecture que j'en ai faite 10 ans après. C'est une Afrique, on pourrait dire, nous, dans notre jargon, projective. C'est-à-dire qu'elle y met toutes sortes de choses, tout ce qu'elle a attendu toute sa vie, ce qu'elle explique très bien. J'ai toujours mis un écart entre ma vie et ce que j'attendais. Et donc l'Afrique se met à véritablement incarner. On peut dire que c'est comme une personne ou des personnes, mais extrêmement vivantes. L'Afrique se conforme finalement à son désir, mais en même temps, elle respecte totalement l'Afrique. Ce qui est assez phénoménal, on peut dire fascinant, c'est la manière dont elle considère tout de suite les Noirs. Elle a le sentiment qu'elle n'a pas à apprendre quelque chose d'étranger avec les Noirs, mais que les Noirs vont lui révéler ce qu'il y a d'étranger en elle.
Mais donc ce n'est pas une Afrique charnelle réellement?
Non, ce n'est pas, parce qu'en fait, rien dans sa vie n'est véritablement très sexué. Hein, elle le dit elle-même, personne ne peut véritablement s'approcher de moi. Et elle dit, jamais, elle parle d'un ami qui lui a dit cette phrase, qu'elle reprend à son compte, qu'il n'a jamais connu quelqu'un d'aussi sensuel qu'elle et d'aussi peu sexuel.
J'ai possédé une ferme en Afrique, au pied du Knoumang. La ligne de l'équateur passait dans les montagnes à 25 000 au nord, mais nous étions à 2 000 mètres d'altitude. Au milieu de la journée, nous avions l'impression d'être tout près du soleil, alors que les après-midi et les soirées étaient frais et les nuits froides. L'altitude combinée au climat équatorial composait un paysage sans pareil. Paysage dépouillé, aux lignes allongées et pures, l'exubérance de couleurs et de végétation qui caractérise la plaine tropicale en étant absente, ce paysage avait la teinte sèche et brûlée de certaines poteries. Le feuillage léger des arbres, au lieu de former un dôme comme en Europe, s'étageait en couches horizontales et paraboliques. Cette structure particulière donnait aux arbres isolés tantôt la silhouette de grands phénix, aux palmes mouvantes, tantôt l'attitude fière et héroïque d'un trois-mâts, les voiles carguées. À la lisière du bois, un frémissement étrange semblait courir et gagner toute la forêt. Quelques aubépines, vieilles et rabougries, surgissaient de place en place dans la plaine, comme l'herbe sentait le thym et le piment. L'odeur en était parfois si forte qu'elle prenait aux narines. Les fleurs des prés, les lianes de la forêt, étaient en général minuscules comme celles des plantes grasses qui fixent les dunes. Et pourtant, au début de la saison des pluies, on voyait fleurir différentes variétés de grands lys odorants. Il y en avait à perte de vue, libre et fier comme la nature de ce pays.
Des lys odorants, libres et fiers comme la nature de ce pays, écrit Karen Blixen dans les premières lignes de La Ferme africaine, lu ici par Claude Dominique, Martine Bachrich. Et c'est vrai que l'Afrique, pour commencer, c'est la nature.
Oui, c'est la nature, mais ça c'est quelque chose qu'elle aime déjà au Danemark. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, elle reconstitue dans la forêt africaine où elle met des apports danois. C'est très intéressant. Par exemple, elle ne tue pas les oies pour que ça ressemble au Danemark. Elle y retrouve le chant des rossignols, l'antilope, comme les daims. Donc elle y met beaucoup du Danemark, parce que le Danemark est quelque chose qu'elle a fui, mais qui est en même temps un doux paradis pour elle, qu'elle retrouvera à la fin de sa vie.
C'est un paradis, c'est aussi... Peut-être une arche de Noé, c'est aussi peut-être un pays qui n'a pas d'âge, dont on pourrait retrouver l'origine, justement, au moment de la Genèse, quasiment.
Voilà, mais ce sont les premières, le début de la ferme africaine. On ne peut pas ne pas penser à la Genèse quand elle parle de la planète Terre jetée dans l'espace. Cette vision qu'elle a d'une position qu'on pourrait dire stratosphérique ou divine, du bétail qui se déplace. Il y a une espèce de basculement hein, du point de vue permanent dans l'écriture, où on est totalement projeté, aspiré, déplacé, et où on perd complètement, immédiatement, ses repères. À cela s'ajoute évidemment dans l'écriture tous ces mouvements dans le temps, c'est-à-dire des propos les plus populaires aux textes les plus classiques, des références aux grands textes, mais aussi elle parle merveilleusement évidemment des Noirs, des Kikuyu, mais ça renvoie pour elle aux grands héros des mythes ou des sagas islandaises ou de la mythologie. Tout est constamment basculé d'un temps à un autre. Il y a pas de structure narrative et il y a un total basculement. Et ce qu'elle dit, c'est, je crois, dans les 2-3 premières pages, elle dit « liberté, majesté, je crois, noblesse ». C'est peut-être pas dans l'ordre, mais elle dit les trois.
Et ça là, pourrait être aussi une définition de son écriture, parce que des romans qui commencent par des descriptions, il y en a énormément, mais effectivement, cette description de l'Afrique au début de La Ferme africaine, elle rejoint un grand récit, c'est ça ?
Oui, c'est ça. On est complètement dans le mythe. Mais pourquoi est-ce que ça prend ? Hein, ça, on peut pas l'analyser complètement. Pourquoi un texte est si beau tout de suite et pourquoi il nous emporte? Parce qu'il y a incontestablement un effet Blixen. Il y a une magie qui opère. Alors, je pense qu'elle est dans tous ces écarts dans lesquels on est précipité, on est emporté avec elle.
Et cette magie, vous savez comment elle marche? Vous avez réussi à l'analyser?
Non, parce que je pense qu'on peut pas analyser.
C'est une sorcière,
serait triste
Karen
si on
Blixen.
Arrivait, parce qu'on serait presque dans une recette. Alors là, on aurait trouvé la recette.
Ma rencontre avec les Noirs, écrit Karen Blixen, fut pour moi ce que la découverte de l'Amérique fut à Christophe Colomb.
Oui, oui, oui. Elle le compare. Enfin bon, elle a pas peur hein, dans ses comparaisons. Oui, mais elle a l'impression là de vivre quelque chose. En partie, elle a raison parce que elle considère les blancs en Afrique, les colons. Elle les exècre, on peut dire. Elle a une véritable répulsion. Pour elle, c'est la middle class, qu'elle compare d'ailleurs enfin, tout à fait à la bourgeoisie danoise quand elle revient en 31 et que les temps ont beaucoup changé avec l'avènement d'une vie démocratique au Danemark. Donc, ce qu'elle déteste, elle dit d'ailleurs, elle écrit, « Si je ne peux pas appartenir ni au monde des artistes ni à l'intelligentsia, je vais appartenir au prolétariat, mais jamais à la middle class. »
C'est-à-dire ce prolétariat, c'est un prolétariat tout de même très spécial
ce
prolétariat africain.
Qu'elle élève au rang de l'aristocratie. Elle parle tout de suite du règne africain.
Elle est fascinée par la dimension poétique chez les indigènes. Qu'est-ce que c'est que cette dimension poétique qu'elle voit si présente?
Mais je pense qu'elle-même, elle, sans savoir exactement comment ça marche, hein, Blixen, mais elle est elle-même, elle est métaphore permanente, on peut dire. C'est une écriture où les métaphores abondent. Et je pense qu'elle, immédiatement, elle est en prise avec quelque chose qui est dans la vie, qui est effective, qui n'est pas de la poésie, qui fait partie du mode de pensée africain. Elle est complètement en prise avec eux. Elle est complètement admirative.
Le mode de penser et puis aussi le mode d'écouter. Parce que les Africains qui travaillent sur ces terres sont des personnes qui savent écouter ce que les Européens ont un petit peu oublié, puisque les Européens, dit-elle, voient avant d'écouter.
Oui, mais en même temps, elle-même, il la surnomme Géry. Et Géry, ça veut dire, la traduction, je pense que c'est du Swahili, ça veut dire celle qui écoute ou celle qui sait écouter. Donc elle est toute écoute aussi pour eux.
Donc elle raconte qu'il n'y a quand même pas que l'écoute, parce que parfois il y a des enfants qui se mettent à sa fenêtre pendant qu'elle tape à la machine et qui la regardent aussi taper à la machine.
Oui, mais en même temps, c'est un langage complètement de vérité. Quand elle demande à son cuisinier, à Camante, Camante lui dit « Est-ce que tu crois que tu seras capable d'écrire un livre ?» en la voyant taper sur sa petite corona. Et il répond, il pose la question et il fait la réponse et il lui dit « Moi, je ne crois pas ». C'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécialement indulgents. Ils disent exactement ce qu'ils viennent. Elle dit d'ailleurs d'eux, c'est intéressant, elle dit ils ne sont pas fiables, mais ils sont totalement sincères.
Ma petite maman chérie, tu as à pâtir du fait que tu as des enfants tellement bizarres qu'il leur faut une révolution ou bien participer à une guerre mondiale pour naître véritablement. Pour d'autres, qui ne sont en aucune façon plus insignifiants, il suffit de suivre les cours de l'école de Madame Salle ou d'apprendre à conduire une automobile, ce qui cause bien moins de tracas à tout le monde. Pourtant, le monde ne manque pas d'êtres singuliers, gens qui vont au pôle Nord, artistes et soldats de l'armée du salut, dont les mères ont dû joindre les mains et accepter le fait que le destin et le bonheur de leurs enfants doivent emprunter des voies aussi étranges et tortueuses. Et puis, quand on y pense, on court peut-être d'aussi grands dangers dans les bureaux d'un ministère qu'au milieu des icebergs. Si tu te rappelles l'histoire de la cigogne, les deux hommes qui habitaient une petite maison triangulaire et l'eau qui s'échappait de l'étang aux poissons, etc., eh bien, elle me sert encore souvent à expliquer la vie, et j'y crois toujours, tout comme la reine Draga en son temps. Au moment précis où l'on a l'impression de tourner en rond de la façon la plus désespérante, de tomber dans un trou, puis d'en ressortir, on est justement en train de parachever le chef-d'œuvre de sa vie, le microcosme. J'en ai fait l'expérience dans ma propre vie, et les plus grands moments ont été ceux où j'ai pu distinguer la cigogne.
C'est Alice Buteau qui lisait ce courrier envoyé par Karen Blixen à sa mère, ces lettres qui courent de 1914, date de son arrivée en Afrique, jusqu'à 1931, moment où elle quitte le pays. Et c'est là qu'elle raconte cette histoire de la cigogne que vous aviez commencé d'évoquer, Martine Bachrich.
Ouais, c'est très très important parce que c'est l'histoire, c'est une histoire qu'on se racontait dans la nursery chez les enfants les enfants d'Inzen, et c'est l'histoire d'un homme qui est réveillé en pleine nuit par une catastrophe. Il sort de chez lui, il se perd, il tombe dans un trou, il en ressort, il tombe dans un autre trou, il en ressort, il découvre une fuite dans son barrage, il la répare et il retourne se coucher. Et le lendemain, à sa stupeur, il découvre que les traces laissées, le chemin parcouru, dessinent les contours parfaits d'une cigogne. C'est dire que des avatars, des moments de perte, de chute dont elle parle là, peuvent être intégrés dans le dessin ou le destin d'une vie de manière tout à fait harmonieuse pour finir. C'est-à-dire que ça peut avoir un sens.
Et vous pensez que l'extrême difficulté tout de même de la vie de Karen Blixen, et cela jusqu'à la fin, puisqu'on sait qu'elle a été extrêmement malade et qu'elle a beaucoup souffert, à la fin, elle croyait toujours qu'elle voyait la cigogne, que la cigogne allait soudainement apparaître.
Enfin, je pense qu'elle l'a vue au moment où elle part à Skagen écrire La ferme africaine. Elle a l'impression, je crois qu'elle le dit, que la cigogne est à côté d'elle. Son père, la cigogne. Et elle écrit presque sous dictée. Elle laisse sa mère qui est mourante. C'est assez étonnant. Et elle se dirige vers le nord du Danemark dans un paysage qui doit être presque aussi grandiose que l'Afrique dans son genre, c'est-à-dire là où la Baltique et les eaux de la Baltique et de la mer du Nord se rejoignent. Et pendant 6 mois pratiquement enfermée, elle écrit. Donc là, la cigogne est à côté d'elle, sans qu'elle sache elle-même encore que le dessin parfait, au fond, c'est le livre qui va paraître.
Ces lettres, elles sont assez extraordinaires tout de même. Elles sont presque aussi belles que les récits qu'elle en a tirés. Et là, on voit en même temps le gouffre entre les lettres, c'est-à-dire la vie, quoi, qui est déjà une médiation, puisqu'elle écrit à quelqu'un et avec une intention, et le récit tel qu'elle va ensuite le coucher sur le papier. Comment est-ce que vous voyez cette différence entre les lettres, la vie et les récits?
Bah oui, on peut. Je ne sais pas si on peut dire c'est le creuset de la création. Hein. Je pense que les lettres sont autant une fiction que ces romans ou que ces contes, parce qu'on voit que selon qu'elles sont adressées à son frère ou à sa mère, la tonalité en est complètement différente. Mais on a quand même là une idée du malheur de Karen Blixen, c'est-à-dire de par exemple l'histoire d'amour. J'ai toujours quelques scrupules à dire ce qui s'est passé avec Denis Finch-Hatton, parce que ça nous gâche notre film, le film de Pollack.
Et on est au moment où on le revoit maintenant, donc on connaît la
oui,
fin déjà.
Mais ça ressemble pas du tout à ça, la réalité. Ça a été vraiment dramatique, cette histoire d'amour. Donc là,
pourquoi
on en a quand même un aperçu, cet aperçu justement aussi douloureux. Donc, certains égards, là on a le vrai du vrai.
Qu'est-ce qui était si dramatique dans cet amour-là?
Ce qu'il y a de si dramatique, c'est peut-être que c'est pas dramatique après tout d'être amoureux, même si c'est unilatéral, mais elle a aimé passionnément un homme qui était totalement absent, et qui était, on peut dire, un prince de l'abandon.
Mais un prince tout de même.
Mais un prince tout de même, voilà. Et qu'il a élevé, je pense, qui lui a appris beaucoup de choses, en musique, en poésie, dont elle savait que il volait, c'est une métaphore, mais il y avait son fameux avion dans lequel il s'est écrasé, mais aussi volait à une altitude intellectuelle qui n'était pas la sienne. Et ça, elle le craignait beaucoup. Elle craignait de ne pas être à la hauteur.
Ce qui en fait quand même quelqu'un d'assez impressionnant quand on connaît la culture de Karen Blixen.
Oui, mais c'est un homme très, très impressionnant, Denis Finch-Hatton, à tout point de vue.
Et qui avait choisi la liberté, c'est sûrement ça qui plaisait à Karen Blixen, parce que lui ne voulait pas s'attacher à elle, mais elle qui aimait la liberté aussi respectait sans doute le
Absolument.
Fait que, précisément,
mais
il ne voulait pas s'attacher.
Oui, mais elle aimait, par exemple, elle avait une fascination pour les Maasai, et elle aimait jusqu'à leur haine des Blancs, c'est-à-dire leur insoumission. Et ce qu'elle aimait chez Denis Finch-Hatton, qui lui était fatal à elle, c'était sa liberté. C'était son impossibilité de s'attacher, et la manière d'ailleurs dont, lorsqu'elle a, elle, manifesté ses sentiments, ce qu'elle se gardait bien de faire, la réponse ne s'est pas fait attendre et il l'a quittée.
Donc vous dites qu'au fond, elle admirait chez les Maasai leur insoumission, mais en même temps, elle fait partie de la colonie tout de même. C'est quelqu'un qui vient coloniser le Kenya. Elle fait en tous les cas partie de la communauté des gens qui viennent coloniser le Kenya.
Elle ne se situe pas du tout comme ça. Ça leur a fait bondir, ce que vous dites, je crois. D'autant plus qu'elle était toujours, elle était dans la provocation, par exemple, par rapport à la colonie des colons. Elle s'inscrit en faux contre leur attitude, contre leur obtusion. Elle a pas de mots assez durs. Et puis ensuite, quand elle revient au Danemark, elle est championne tout à fait de l'oligarchie là. Hein. C'est le contraire. Elle ne supporte pas l'avènement de la bourgeoisie. Elle se situe en aristocrate. Donc elle peut pas se situer comme ça, comme intégrée au sein de cette colonie.
C'est impossible. À tel point que la colonie considère que elle trahit, mais elle reste une blanche parmi les noirs. Ça pose la question de ce qu'une Européenne comme elle a pu apporter à l'époque, en pleine colonisation, à un pays comme le Kenya.
Moi, je pense qu'elle a apporté, parce qu'en fait, elle a gardé sa place d'une certaine manière là-bas. Je pense qu'elle a été quand même une des premières à comprendre l'apport. Elle n'était pas anthropologue quand même, c'était pas une spécialiste, mais à comprendre ce que la culture noire pouvait apporter. l'apport considérable qu'il pouvait offrir.
Donc au fond, c'est la question de la classe sociale qui est chez elle plus importante que la question noir-blanc.
Oui, elle le dit d'ailleurs. Elle dit que la question de la classe est ce qu'il y a de plus important. Et la question de l'aristocratie, dont on n'a pas tellement, qu'on n'a pas tellement évoqué, mais vous savez, avec cette fameuse phrase qu'on rapporte, ça valait bien la peine d'avoir la syphilis pour être baronne. Oui, c'est-à-dire que ça pouvait aller jusque-là.
Je vous remercie beaucoup, Martine Bachrich. Malheureusement, on n'a pas le temps de développer sur ce thème-là en particulier. Il y a dans ce recueil Quarto de très belles lettres, mais aussi non seulement La ferme africaine, et puis, si je me souviens bien, Ombre dans la prairie. Voilà, et je renvoie les auditeurs qui souhaiteraient aller plus loin sur ce volume disponible toujours chez Gallimard. Et comme chaque jour à 15h30, nous allons voir ce qui se passe maintenant du côté des revues, en l'occurrence de la revue Page, qui est la revue des libraires. C'est avec vous que nous le faisons. Georges-Marc Habib, bonjour.
Bonjour Mathieu, ravi de vous retrouver.
Alors dans le numéro de Page, en librairie en ce moment, on trouve notamment pas mal de polars. Expliquez-nous un peu tout ça.
Et oui, mais pas que, parce que vous savez, Page s'appuie sur un réseau de libraires très vaste à travers toute la France, qui lisent les textes avant parution, et donc forcément on suit un peu la saisonnalité des parutions, et on sait que le moment de mars-avril, c'est un moment très fort en littérature policière en librairie et dans l'édition. Et donc effectivement, nous avons dans ce numéro de Page des entretiens, notamment avec Caril Ferré, avec Philippe Kerr, ou un aperçu des derniers formats de poche parus en polar. Mais pas que, on parle aussi de littérature, d'essais, de bandes dessinées, de jeunesse.
Alors justement, en littérature qu'on appelle littérature générale, vous défendez le deuxième roman de Céline Laperteau qui s'appelle « Des femmes qui dansent sous les bombes ».
Et oui, c'est effectivement un livre que les libraires ont beaucoup, beaucoup défendu dans ce numéro-là, puisque le numéro de Page est constitué des lectures des libraires et des remontées de ces lectures, et c'est un livre que les libraires ont vraiment défendu. C'est un livre qui est paru chez Viviane Amu, comme le premier livre de Céline Laperteau, qui s'appelait « Je prendrai tout ce qu'il y a à prendre ». Alors c'est quoi ce livre ? Nous sommes en Afrique, mais là nous parlons d'une Africaine.
Vous avez fait exprès de choisir ce livre pour cette
raison. J'essaie d'être un peu en lien avec votre actualité aussi. Donc cette jeune femme, Séraphine, voit sa famille massacrée et elle, son corps profané par un groupe de miliciens. Détruite, elle ne survit que grâce à l'intervention d'un groupe de combattantes qui se font appeler les Lionnes Impavides. Et dès cet instant, c'est une nouvelle vie pour Séraphine qui va, debout, les armes à la main, rejoindre ce groupe de combattantes. C'est un livre sur les femmes guerrières en Afrique, ces femmes qui s'accaparent cet univers très masculin qu'est la guerre et les armes pour mieux revendiquer leur féminité et leur indépendance. Ces Lionnes Impavides, elles donnent sens aux femmes qui ont tout perdu. Perdu leur village, perdu leur famille, perdu même leur honneur, et qui leur donne, le fait de se battre, leur donne envie de continuer à vivre et à défendre ce qu'elles considèrent comme essentiel, dans le livre en tout cas, ce qui est leur pays.
La Lionne qui a tout perdu, c'est exactement Karen Blixen.
Voilà, sauf que là, c'est une Lionne qui réagit et qui prend les armes pour se défendre et pour retrouver un peu sa place dans la société, ce qui n'est pas de chose facile dans cette Afrique. Céline Laperteau, elle travaille beaucoup sur l'univers féminin. Son premier livre, c'était aussi un peu comme ça, cette violence faite aux femmes. Et à travers cette figure africaine, elle met le doigt sur cette actualité toujours brûlante qui est la violence qui est faite aux femmes partout dans le monde aujourd'hui.
Et puis, vous vouliez nous parler d'une nouvelle maison d'édition, Inkipit.
Exactement, parce que en librairie, il faut aussi découvrir des nouvelles façons de faire des livres. Et notamment, Inkipit lance une collection tout à fait étonnante qui vont nous parler des premières fois. Et là, en l'occurrence, leur premier livre est ma foi, tout à fait réussi, puisque c'est François Bégaudeau qui s'empare d'un sujet, on va dire que moi, j'ai trouvé assez génial, qui est la première femme à l'Académie française. Là aussi, on va parler de femmes, et je trouve que c'est important. Alors, mais ça ne va pas parler que de ça, ce livre. Ça va aussi parler de l'histoire de l'Académie française, qui est une institution qui a été créée par Richelieu en 1634, et qui a été, donc les académiciens ont été des hommes tout pendant plus de deux siècles, jusqu'à l'arrivée
Marguerite Yourcenar
en 1980, qui a récolté suffisamment de voix pour être élue, parce qu'il y avait eu d'autres femmes auparavant qui avaient essayé d'être élues, mais qui n'avaient pas réussi, qui n'avaient pas récolté suffisamment de voix. C'est des petits textes, en l'occurrence d'une centaine de pages, mais alors d'une énergie et d'une faconde incroyable. Bégaudeau, il met toute son énergie pour retracer cette histoire-là et pointer du doigt cette aberration qui est de dire qu'il a fallu attendre 1980 pour avoir une femme à l'Académie française. Voilà, cette collection, elle, c'est génial, donc ça va traiter vraiment des premières fois. Je crois qu'il y a 6 titres de prévus pour 2016, dont notamment, je tiens à le signaler, Eliade Abécassis qui va nous parler du premier bikini et Philippe Génada pour les premiers Jeux Olympiques. Voilà, donc c'est l'occasion d'aller en librairie pour découvrir une nouvelle forme de littérature.
D'accord, alors rappelez-nous, comment est-ce qu'on peut trouver votre revue page ?
Eh bien forcément chez les libraires, hein. Nous sommes en vente dans toutes les bonnes librairies à travers la France ou sur abonnement, rendez-vous sur le site de pages-et-libraires.fr.
Comme c'est bien fait, merci Georges Marc Habib. Nathalie Skowronek est romancière, elle est auteure de Max en apparence, paru aux éditions Arléa, c'était en 2013, et de Karen et moi, un roman publié en 2011, mais oui, premier roman, puisque c'est donc antérieur, et qui a été repris en 2013, cette fois dans la collection de poche des mêmes éditions Arléa. Elle est aujourd'hui ma deuxième invitée, et nous parlons donc toujours de Karen Blixen.
Elle est très anglo-saxonne, en ce sens, et on pourrait dire aussi scandinave, c'est-à-dire en ce sens qu'elle n'est pas comme nous le sommes trop ici, on pourrait dire cartésienne. Pour elle, les choses ne sont pas logées dans des catégories fermées. Sa pensée est beaucoup plus dilatée que la nôtre, est très poreuse. Moi, c'est une des choses qui m'attire beaucoup chez Henry James, par exemple. Et je pense que sa façon de parler, de comprendre et d'entendre les enfants et de vivre les enfants, justement, dans les chevaux fantômes, s'apparente assez à la façon dont Henry James y parlait des enfants.
Bonjour Nathalie Skowronek.
Bonjour.
On vient d'entendre Viviane Forrester dire que Karen Blixen n'était pas cartésienne, qu'elle était davantage anglo-saxonne. Comment est-ce que vous comprenez, vous, cette déclaration un petit peu de Viviane Forrester ?
Mais c'est surtout que Karen Blixen était un mélange de tous les paradoxes, c'est-à-dire que c'était quelqu'un d'extrêmement sensible, qui était une éponge et qui absorbait les tonalités des uns et des autres. Donc c'était aussi une grande lectrice. Elle était réceptive évidemment au monde anglo-saxon, elle était réceptive au monde du mystère, du fantastique.
À la narration, au conte aussi, qui est peut-être une tradition... De même que la nouvelle anglo-saxonne.
Et elle adorait raconter des histoires. Alors, je pense que l'histoire de Karen Blixen s'est dessinée au fur et à mesure de son parcours, parce que au départ, quand elle a 16, 17, 18 ans, elle sait juste qu'elle a des aspirations à la création, qu'elle a cette sensibilité, qu'elle a envie de devenir quelqu'un, qu'elle a un grand besoin de reconnaissance, qu'elle a été aussi quelque part, d'une certaine façon, mandatée par son père Willem pour accomplir des grandes choses. Ça n'a jamais été dit entre eux, mais ils ont une relation extrêmement fusionnelle. Et le père, qui s'est donc suicidé quand Karen avait 10 ans, a posé en elle les germes, comme ça, d'un monde hors norme d'un monde où les choses ne sont pas nécessairement programmées. Et donc, elle arrive avec tout ça. Dans un premier temps, elle se demande si ça va pas passer par le dessin. Elle va prendre va faire des cours de dessin à Paris. Puis, tout ce qu'on a déjà beaucoup dit, elle va partir en Afrique. Et c'est probablement en Afrique aussi qu'elle va découvrir cette tradition du conte, qu'elle va voir comme elle sait capter l'attention, comme elle sait raconter, elle découvre chez les Africains cette capacité d'écoute. Et donc, petit à petit, cette espèce de bouillonnement interne va prendre forme, et notamment par cette idée de narration et de raconter une histoire, et en l'occurrence la sienne.
Et cette histoire, celle de Karen Blixen, cette écrivaine vous a fasciné à tel point que vous avez voulu écrire un livre dont elle est, pas vraiment un personnage, mais dont elle est une référence constante, Karen et moi.
Oui, en fait, c'était l'envie d'écrire un livre sur la littérature. En quoi la littérature nous aide, en quoi la littérature peut ouvrir des chemins et en quoi la littérature peut parfois nous sauver. Et dans Karen et moi, donc, qui était mon premier roman, une sorte de baptême du feu, c'est l'histoire d'une narratrice qui est perdue dans sa vie, qui s'est égarée en chemin, qui n'a pas fait les bons choix, qui arrive tournant de la trentaine et qui ne voit plus une vie qui lui ressemble. Et est perdue et dans sa confusion, elle va demander alors à Karen Blixen de la sauver. Elle va se demander, mais qu'est-ce que Karen Blixen peut dire de ma vie? Est-ce que Karen Blixen peut me montrer la voie?
Et pourquoi Karen Blixen et pas à ce moment-là Marguerite Yourcenar que vous citez aussi dans les premières pages?
Parce que cette femme incarne un merveilleux destin de femme, parce que c'est une femme qui tombe et c'est une femme qui se relève, parce que c'est une femme qui a réinventé sa vie à travers l'écriture, puisque donc la ferme africaine raconte ses années africaines, mais elle les raconte à sa manière à elle, c'est-à-dire à la manière dont elle a envie en tant qu'écrivain de raconter cette histoire-là. Donc il y a une vraie retransfiguration du réel. Et aussi parce que cette femme est l'auteur, on en a dit un mot tout à l'heure, d'une merveilleuse correspondance, et où on découvre la Karen Blixen d'avant. Évidemment, quand on lit une correspondance, quand on lit la correspondance de Flaubert, quand on lit la correspondance de Karen Blixen, nous, on sait déjà. Et c'est parce qu'ils sont ces gens-là qu'on lit leurs lettres. Mais eux, quand ils écrivent, ils ne savent pas. Et donc, c'était vraiment fascinant à ce moment-là pour moi d'essayer de créer, et à ce moment-là, on est dans la fiction, essayer de créer des résonances entre deux femmes qui n'avaient pas vocation à se rencontrer et de se dire comment est-ce que ces deux imaginaires-là pourraient se croiser, parce que la narratrice, évidemment, s'adresse à ce moment-là pas à Karen Blixen, mais à la Karen d'avant Karen Blixen. Et cette Karen d'avant Karen, c'est la Karen de la correspondance.
Donc Karen Blixen qui sauve votre narratrice, on entend souvent cette réflexion. Et d'ailleurs, la secrétaire de Karen Blixen elle-même disait que, si l'on en croit en tout cas la biographie romancée de Dominique de Saint-Pern, qu'elle devait en permanence se replonger dans la ferme africaine quand elle n'allait pas bien. Donc on retrouve toujours, et c'est souvent du côté des femmes, qu'on retrouve cette envie de se raccrocher pour aller mieux psychologiquement à Karen Blixen. Comment est-ce que vous expliquez, comment est-ce que vous voyez ça? Parce que votre roman, c'est un peu ça aussi.
C'est même beaucoup ça. C'est beaucoup cette idée donc de s'identifier, de chercher chez d'autres des mots pour dire ses propres émotions. Et donc ce livre-là est sorti il y a 5 ans et je constate encore vraiment très régulièrement ce que cette femme, Karen Blixen, et pas forcément elle, parce que tout le monde n'a pas lu La Ferme africaine, encore moins ses contes gothiques, si on enlève Le festin de Babette et La Ferme africaine, on ne l'a pas vraiment lu, mais elle dégage quelque chose, elle est une espèce de mythe féminin qui parle énormément aux gens et encore aujourd'hui.
c'était la danse de l'élastique, The Elastic Dance, en VO par le groupe African Head Charge. Alors on parlait tout à l'heure de l'Afrique, de Karen Blixen avec Martine Bacherich. Et pour vous, Nathalie Skowronek, l'Afrique c'est aussi le centre de votre roman, dans lequel donc vous mettez Karen Blixen en miroir. Pouvez-vous nous dire un petit peu justement quel est le point de départ de ce rapport à l'Afrique que vous décrivez, ou que plutôt votre narrateur décrit dans ce roman?
Quand Karen Blixen part en Afrique, il y a une forme de plus rien à perdre. Elle sait que pour elle, ce ne sera pas possible au Danemark. Elle sait qu'au Danemark, les codes sont trop rigides. Ingeborg, des années plus tard, dans une lettre qu'elle écrit à Thomas, racontera ça vraiment très bien en disant qu'elle a mis au monde une fille bizarre qui a besoin d'une vie bizarre et qu'elle n'est pas faite pour les salons danois, pour l'atmosphère compassée, pour les choses un petit peu trop encadrées. Et donc, cette espèce d'ailleurs, cet ailleurs où les choses seraient plus libres, où tout serait possible, et bien cet ailleurs pour elle va être l'Afrique.
Et votre narratrice la découvre en situation, pourrait-on dire. Elle la découvre à 11 ans, cette Afrique de Karen Blixen en Afrique. Racontez-nous un petit peu ça.
Voilà, et donc cette narratrice qui ne m'est pas tout à fait étrangère, et en même temps c'était pas 11 ans, c'était pas sous une tente, mais cette narratrice donc qui va utiliser les livres comme une façon d'être au monde et qui va demander aux livres à la fois de faire écran entre le monde et elle, parce qu'elle se cache derrière les livres pour ne pas avoir parfois affronté sa vie, et en même temps elle dévore les livres pour qu'ils lui apprennent comment vivre, comment être au monde et comment comprendre. Et donc cette narratrice-là est à 11 ans sous une tente et elle va découvrir Karen Blixen et elle va découvrir le lion de Kessel et elle va découvrir l'appel de la forêt de Jack London. Et chaque fois, c'est cette idée de trouver cette tension entre la vie sociale organisée, où les choses sont plus définies, et puis cette espèce d'aspiration très très romantique à des grands sentiments, à des grands espaces, à un tout est possible. Et donc elle aussi, entre ces deux possibilités-là, comme L'appel de la forêt, qui est un livre de référence, où elle parle de ce chien Buck qui hésite toujours entre rejoindre les loups dans la forêt ou rester avec son maître fidèle dans la plaine. Et donc c'est toujours cette tension dans laquelle Karen Blixen, je pense, a aussi oscillé entre être la reine des baronnes au milieu des colons, pour dire les choses rapidement et de façon un peu simple, ou être l'aventurière qui chasse les lions.
Donc on arrête de dire Nathalie Skowronek, votre narratrice, et on peut dire vous directement?
On peut. Alors, il y a toutes les possibilités. J'ai un petit peu tout essayé. Disons que cette narratrice aujourd'hui est plus loin de moi qu'elle l'était il y a 5 ans. Mais c'est évident que je n'ai pas eu envie de créer une fiction pour une fiction. C'était de travailler à partir de son propre matériau et en même temps en s'autorisant des choses qui n'existent pas nécessairement dans la vie. Vraie vie, comme notamment parler à un écrivain qui était mort 11 ans avant ma naissance et avec laquelle, a priori, je n'aurais rien dû avoir en commun, ou parler avec les animaux. Donc c'est évidemment quelqu'un qui m'est très très proche, comme je crois Karen Blixen était très proche de l'héroïne de La ferme africaine, et en s'autorisant ce que permet aussi la littérature, c'est-à-dire de, si pas d'inventer, en tout cas de réécrire.
Mais quand votre narratrice retourne visiter Mbogani, la ferme de Karen Blixen, est-ce que je peux vous poser la question, comment est-ce Mbogani, et y êtes-vous retourné?
Bien sûr, j'étais là, j'étais pas sous la tente à 11 ans, mais je suis retournée.
Sous la tente, je sais pas sûr qu'on ait dit qu'effectivement le livre commence par votre narratrice qui a 11 ans, alors qu'elle se trouve mal dans sa famille, demande à partir au Kenya, et sous la tente, effectivement, découvre avec stupeur et émerveillement le livre de Karen Blixen.
Voilà, et puis donc je suis retournée à Nairobi, j'ai découvert Mbogani, j'ai vu ce lieu extrêmement chargé, et qui en même temps m'a paru un petit peu plus artificiel, si pas nettement plus artificiel que Rungstedlund, donc qui est la maison du Danemark dans laquelle Karen Blixen revient à 46 ans, donc ruinée, divorcée, sans enfant, avec cette sensation de n'avoir fait qu'accumuler des échecs, de n'avoir été qu'un poids pour sa famille, et elle revient comme quelque part une petite fille malheureuse, prise en faute, qui n'a plus d'autre lieu où aller, si ce n'est cette maison familiale où elle est née et où elle va mourir.
Et c'est comment alors là-bas, Mbogani ?
Alors, Mbogani, c'est ce qu'on voit dans Out of Africa, c'est-à-dire que c'est quand même une maison qui a été reconstituée, et donc c'est une petite maison modeste au milieu d'un grand jardin, et avec beaucoup d'objets, le bureau de Karen Blixen, une grande peau de je ne sais plus de zèbre au sol, donc tous des objets qui représentent l'Afrique. Et ce qui est très curieux aussi, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'éléments qui viennent du Danemark. Et donc quand Karen Blixen lâche tout pour partir en Afrique, elle emporte quand même avec elle le Danemark en Afrique.
Alors on connaît, Nathalie Skowronek, la déchirure qu'a été pour Karen Blixen de quitter cette Afrique qu'elle aimait tellement. Et on ne peut pas ne pas penser à un autre livre d'un autre écrivain, Marguerite Duras, et Un barrage contre le Pacifique.
Qui est, je crois, le livre qui m'a le plus troublée, le plus bouleversée. Je l'ai lu à 15-16 ans. Et il y avait cette femme, la mère de Marguerite Duras, qui chaque année construit des barrages pour essayer de sauver sa plantation de riz le long du Mékong. Et chaque année, elle voit cette plantation, cette culture dévastée. Et ce qui me trouble à chaque fois, c'est que c'est raconté évidemment à travers le regard de Marguerite Duras, la fille, et la fille qui est à la fois désespérée et folle de rage contre cette mère qui y croit encore alors que plus personne n'y croit et que tout le monde sait qu'elle va échouer. Cette mère y croit. Et c'est un livre qui est passionnant parce que on a envie d'être du côté de la mère, d'être celle qui se bat encore, et en même temps on comprend la rage de la fille. Et je pense que ce livre-là parle aussi beaucoup de Karen Blixen, qui évidemment a s'est entêtée comme une dingue pour cette plantation de café, sa ferme africaine, pour essayer de la sauver de la ruine. Et on est avec elle, et en même temps, quand on la voit se battre, moi, en filigrane, je vois le regard de cette Marguerite Duras, auteur, qui regarde sa mère, et avec ce...
Voilà. Et le frère est un petit peu, Thomas, le frère de Karen Blixen, c'est un petit peu comme Marguerite Duras vis-à-vis de sa mère, c'est lui qui essaie de la raisonner.
Exactement, c'est celui qui essaye de la raisonner, mais Thomas, tel qu'il apparaît dans la correspondance, raisonne, mais reste toujours très calme. Et alors qu'évidemment, Karen Blixen, Marguerite Duras, on sent le la fougue, il y a quelque chose. Mais effectivement, Thomas est celui qui raisonne, qui essaie de calmer le jeu. Et en même temps, c'est lui qui va dire à Karen, à sa sœur Karen, mais écris, tu peux écrire. Et moi, je pense que c'était quand même la grande affaire de sa vie pour Karen Blixen d'écrire. Parce que elle voulait compter, je crois.
Qu'est-ce qui, pour terminer, reste le plus cher à votre cœur, quelques mois maintenant, quelques années, après avoir publié ce livre, quelles sont les images, au fond, de cette Afrique de Karen Blixen qui vous reste le plus ?
Écoutez, moi, ce qui me reste le plus, c'est cet état de perte dans laquelle, dans lequel elle s'est mise. Ce plus rien à perdre, ce dévoilement, ce mélange encore de très grand orgueil et en même temps, c'était une femme qui était vraiment mise à nu et qui n'avait, elle avait laissé tomber les armures.
Merci beaucoup, Nathalie Skowronek. France Culture, 15h54, c'est le moment de retrouver notre séquence quotidienne de lecture de poésie. Et comme les fleurs se mettent à pousser avec l'arrivée des beaux jours, eh bien Jacques Bonafé a mis son nez dehors pour nous trouver des poèmes en lien avec la fleur. Il les a trouvés chez Franck Delorieux, poète, journaliste et photographe, l'auteur du recueil La Fabrique des Fleurs.
Bonjour. Hier, nous terminions dans les arbres avec Francis Ponge. Nous reprenons avec le même Francis Ponge dans le lilas qu'on apprend désormais dans les écoles. Par les inflorescences que voilà, juge un peu de l'émotion de l'arbuste lors de son ébranchement annuel. Il y a chimie du rose au bleu, effervescence et profusion violâtre dans les éprouvettes en papier filtre du lilas. Une goutte de la grappe en fusion parfois se détache. Mais quelle fantaisie alors dans sa chute. C'est l'abeille avec des conséquences brûlantes pour l'expérimentateur. Quand je m'installe dans le jardin pour noircir des feuillets, dit Franck Delorieux dans la fabrique des fleurs, je ne laisse pas de caresser la grappe du lilas. Je la porte à mes narines, je l'embrasse, grappe lourde comme un fruit, à déguster, mordre dans le parfum, grappe comme un oiseau sur la branche. Je voudrais fleurir mauve et m'envoler lilas comme une rengaine d'autrefois. Lilas, dérive d'essence dans le ciel de printemps. Écoutez-le, lilas. Il parle d'un collégien qui ne se soucie pas des fleurs. Rentrez vite, vite pour le goûter. Grand-mère dit qu'elle a toujours vu les fleurs mauves et blanches. Derrière la clôture du collège, les études furent une prison. Pendant les cours, je regardais par la fenêtre, j'attendais que le temps passe. Je dessinais les plans de châteaux imaginaires que j'avais construits dans d'autres siècles. Je cachais un livre sous la table, je lisais des romans où les fleurs sont des sexes mêlés. J'ai appris dans les étagères des librairies ou les boîtes des bouquinistes. J'ai quitté l'université où j'étais censé étudier la philosophie pour courir les rues, les cafés, les parcs, un livre toujours dans la poche, avec un carnet et un stylo. Je savais que je voulais écrire, mais pourquoi écrire? Je ne me posais pas la question. Demande-t-on pourquoi aimer? Merci Franck Delorieux pour cette présentation. Vous avez écrit La Fabrique des Fleurs, qui est publiée chez Galilée. Il y a d'autres livres auparavant. Il parut au temps des cerises aussi, alors ça m'amusait. Roger Vaillant, Libertinage et lutte des classes. Bien d'accord. L'herbier de Monsieur Buratoli aussi. Et puis vous participez à des revues, Franck Delorieux. Fleurs, je crie fleurs. Fleurs, je crie fleurs. Amour enrubanné au parfum d'oiseaux corps frémissant sous le lin pastel des années vertes, fleurs comme une gomme à effacer la douleur. Je me roule dans la jouvence, éclat des yeux turbans déliés sous le soleil, pampre volute lancée dans le ciel à conquérir. Fleurs, je crie fleurs, une folie dans le jardin, fabrique éphémère, les yeux s'ouvrent, au jour aurore peinte dans la joie comme une caresse du bout des doigts, la rosée frémit au premier rayon, je suis hôte de la lumière. Fleurs, je crie fleurs, pollen sur tout le corps, danse dans les prés, langue en pistil, lèche le bonheur, jus sur les doigts, des rires, frémissements sur toute la peau, le battement des ailes des papillons rafraîchit les brûlures des lèvres. Fleurs, je crie, fleurs, je fais le serment de vous suivre dans tous les paysages, avec des pas en forme de tulipe, jardin comme une fantasmagorie, de ma bouche s'envolent des pétales, je m'étire dans le songe. Fleur, je crie fleur, capitaine au long cours de ma vie, toujours vous me ramenez sur la terre, des nuages légers, dans le crâne un rayon de soleil, vivre encore, vivre secoué par le vent, paumes ouvertes pour accueillir les couleurs.
Parler de Paradise Lost ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les sonnets de Shakespeare.
Jacques Bonafé qui interprétait des extraits de La Fabrique des Fleurs, recueil de Franck Delorieux publié aux éditions Galilée. Et c'est dans ce bouquet final que s'achève notre troisième numéro d'une série consacrée à Karen Blixen dans la compagnie des auteurs. Un grand merci à Martine Bachrich qui était avec nous en première partie. Je renvoie au Quarto réunissant les œuvres africaines de Blixen dont elle a rédigé la préface. Et puis le livre de Nathalie Skowronek, Karen et moi, est disponible aux éditions Arléa. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast ou sur le site internet de France Culture en attendant demain. Et notre rencontre avec Geneviève Brisac qui nous parlera des contes de Blixen et de son rapport à l'écrivaine danoise. Cette émission a été réalisée par Lionel Quentin. À la console, il y avait Myriam Guillot. Merci à Pascaline Bonnet, Didier Pinot, Anne-Vanessa Prévost, Sophie de Lombarès, sans qui cette émission ne pourrait avoir lieu.